Théophile Gautier, Onufrius ou les vexations fantastiques d'un admirateur d'Hoffmann. Cling, cling, cling. Pas de réponse. Est-ce qu'il n'y serait pas ? Dit la jeune fille. Elle tira une seconde fois le cordon de la sonnette. Aucun bruit ne se fit entendre dans l'appartement. Il n'y avait personne. C'est étrange. Elle se mordit la lèvre, une rougeur de dépit passa de sa joue à son front. Elle se mit à descendre les escaliers, un à un, bien lentement, comme à regret, retournant la tête pour voir si la porte fatale s'ouvrait. Rien. Au détour de la rue, elle aperçut de loin Onufrius, qui marchait du côté du soleil avec l'air le plus inoccupé du monde, s'arrêtant à chaque carreau, regardant les chiens se battre et les policiers jouer au palais, lisant les inscriptions de la muraille, épelant les enseignes, comme un homme qui a une heure devant lui et n'a aucun besoin de se presser. Quand il fut auprès d'elle, l'ébahissement lui fit écarquiller les prunelles. Il ne comptait guère la trouver là. « Quoi, c'est vous déjà ? Mais quel aurait-il donc ?»« Déjà, le mot est galant. » Quant à l'heure, vous devriez la savoir, et ce n'est guère à moi de vous l'apprendre, répondit d'un ton boudeur la jeune fille, tout en prenant son bras. Il est 11h30. Impossible, dit Onufrius. Je viens de passer devant Saint-Paul, il n'était que 10h. Il n'y a pas 5 minutes, j'en mettrai la main au feu, je parie. Ne mettez rien du tout, et ne pariez pas, vous perdriez. Onufrius s'entêta. Comme l'église n'était qu'à 50 pas, Jacinta, pour le goût fincre, voulut bien aller jusque-là avec lui. Onufrius était triomphant. Quand ils furent devant le portail, « Eh bien, lui dit Jacinta, on eût mis le soleil ou la lune en place du cadran, qui n'eût pas été plus stupéfait. » Il était 11h30 passées. Il tira son lorgnon, en essuya le verre avec son mouchoir, se frotta les yeux pour s'éclaircir la vue. L'aiguille aînée allait rejoindre sa petite sœur sur l'X de midi. « Midi !» murmura-t-il entre ses dents. « Oh, il faut que quelques doigts glottins se soient amusés à pousser ses aiguilles. C'est bien 10 heures que j'ai vu !» Jacinta était bonne, elle n'insista pas, et reprit avec lui le chemin de son atelier, car Onufrius était peintre, et en ce moment faisait son portrait. Elle s'assit dans la pose convenue. Onufrius alla chercher sa toile, qui était tournée au mur, et la mit sur son chevalet. Au-dessus de la petite bouche de Jacinta, une main inconnue avait dessiné une paire de moustaches qui eussent fait honneur à un tambour-major. La colère de notre artiste en voyant son esquisse ainsi barbouillée n'est pas difficile à imaginer. Il aurait crevé la toile sans les exhortations de Jacinta. Il s'effaça donc comme il put ses insignes virils, non sans jurer plus d'une fois après le drôle qui avait fait cette belle équipée. Mais quand il voulut se remettre à peindre, ses pinceaux, quoiqu'il les eût trempés dans l'huile, étaient si roides et si hérissés qu'il ne put s'en servir. Il fut obligé d'en envoyer chercher d'autres. En attendant qu'ils fussent arrivés, il se mit à faire sur sa palette plusieurs tons qui lui manquaient. Autre tribulation. Les vessies étaient dures comme si elles eussent refermé des balles de plomb. Il avait beau les presser, il ne pouvait en faire sortir la couleur. Ou bien elles éclataient tout d'un coup comme de petites bombes, crachant à droite, à gauche, l'ocre, la laque ou le bitume. S'il eût été seul, je crois qu'en dépit du premier commandement du décalogue, il aurait attesté le nom du Seigneur plus d'une fois. Il se contint, les pinceaux arrivèrent, et il se mit à l'œuvre. Pendant une heure environ, tout alla bien. Le sang commençait à courir sous les chairs, les contours se dessinaient, les formes se modelaient, la lumière se débrouillait de l'ombre, une moitié de la toile vivait déjà. Les yeux, surtout, étaient admirables. L'arc des sourcils était parfaitement bien indiqué et se fondait moelleusement vers les tempes en tons bleuâtres et veloutés. L'ombre des cils adoucissait merveilleusement bien l'éclatante blancheur de la cornée. La prunelle regardait bien, l'iris et la pupille ne laissaient rien à désirer. Il n'y manquait plus que ce petit diamant de lumière, cette paillette de jour que les peintres nomment point visuel. Pour l'enchâsser dans son disque de jet, Jacinta avait les yeux noirs. Il prit le plus fin, le plus mignon de ses pinceaux, trois poils pris à la queue d'une martre zibeline. Il le trempa vers le sommet de sa palette, dans le blanc d'argent qui se levait à côté des ocres et des terres de sienne, comme un piton couvert de neige à côté de rochers noirs. Vous eussiez dit avoir tremblé le point brillant au bout du pinceau, une gouttelette de rosée au bout d'une aiguille. Il allait le déposer sur la prunelle, quand un coup violent dans le coude fit dévier sa main, porter le point blanc dans les sourcils et traîner le parement de son habit sur la joue encore fraîche qu'il venait de terminer. Il se détourna si brusquement à cette nouvelle catastrophe que son escabeau roula à 10 pas. Il ne vit personne. Si quelqu'un se fût trouvé là par hasard, il l'aurait certainement tué. « C'est vraiment inconcevable, » dit-il en lui-même, tout troublé. « Jacinta, je me sens pas en train. Nous ne ferons plus rien aujourd'hui. » Jacinta se leva pour sortir. Onufrius voulut la retenir. Il lui passa le bras autour du corps. La robe de Jacinta était blanche, les doigts de Onufrius, qui n'avait pas songé à les essuyer, y firent un arc-en-ciel. « Maladroit, dit la petite, comme vous m'avez arrangé. Et ma tante qui ne veut pas que je vienne vous voir seule, qu'est-ce qu'elle va dire ?» « Tu changeras de robe, elle n'en verra rien. » Et il l'embrassa. Jacinta ne s'y opposa pas. « Que faites-vous demain ? » dit-elle après un silence. « Moi, oh, rien, et vous ? » ?»« Ben, je vais dîner avec ma tante chez le vieux monsieur de M, que vous connaissez, et j'y passerai peut-être la soirée. »« J'y serai, » dit Onufrius, « vous pouvez compter sur moi. » « On ne venait pas plus tard que 6 heures. Vous savez, ma tante est poltronne. Et si nous ne trouvons pas chez M. de M quelques galants chevaliers pour nous reconduire, elle s'en ira avant la nuit tombée. »« Bon, j'y serai à 5. Allez, à demain, Jacinta, à demain. » Et il se penchait sur la rampe pour regarder la svelte jeune fille qui s'en allait. Les derniers plis de sa robe disparurent sous l'arcade et il rentra. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur Onufrius. C'était un jeune homme de 20 à 22 ans, quoique au premier abord il parut en avoir davantage. On distinguait ensuite, à travers ses traits blêmes et fatigués, quelque chose d'enfantin et de peu arrêté, quelque forme de transition de l'adolescence à la virilité. Ainsi, tout le haut de la tête était grave et réfléchi comme un front de vieillard, tandis que la bouche était à peine noircie à ses coins d'une ombre bleuâtre et qu'un sourire jeune errait sur deux lèvres d'un rose assez vif qui contrastait étrangement avec la pâleur des joues et du reste de la physionomie. Ainsi fait, Onufrius ne pouvait manquer d'avoir l'air assez singulier, mais sa bizarrerie naturelle était encore augmentée par sa mise et sa coiffure. Ses cheveux, séparés sur le front comme des cheveux de femme, descendait symétriquement le long de ses tempes, jusqu'à ses épaules, sans frisure aucune, aplatie et lustrée à la mode gothique, comme on en voit aux anges de Giotto et de Cimabue. Une ample simarre de couleur obscure tombait à plis roide et droit autour de son corps souple et mince, d'une manière toute dantesque. Il est vrai de dire qu'il ne sortait pas encore avec ce costume, mais c'était la hardiesse plutôt que l'envie qui lui manquait. Car je n'ai pas besoin de vous le dire, Onufrius était jeune France et romantique forcené. Dans la rue, et il n'y allait pas souvent, pour ne pas être obligé de se souiller de l'ignoble accoutrement bourgeois, dans la rue, ses mouvements étaient heurtés, saccadés. Ses gestes anguleux, comme s'ils eussent été produits par des ressorts d'acier, sa démarche incertaine, entrecoupée d'élans subis, de zigzags ou suspendus tout à coup, ce qui, aux yeux de bien des gens, le faisait passer pour un fou, du moins pour un original, ce qui ne vaut guère mieux. Onufrius ne l'ignorait pas, et c'était peut-être ce qui lui faisait éviter ce qu'on nomme le monde et donnait à sa conversation un ton d'humeur et de causticité qui ne ressemblait pas mal à de la vengeance. Aussi, quand il était forcé de sortir de sa retraite, n'importe pour quel motif, il apportait dans la société une gaucherie sans timidité, mais une absence de toute forme convenue à un dédain si parfait de ce qu'on y admire, qu'au bout de quelques minutes, avec trois ou quatre syllabes, il avait trouvé moyen de se faire une meute d'ennemis acharnés. Ce n'est pas qu'il ne fût très aimable lorsqu'il voulait, mais il ne le voulait pas souvent, et il répondait à ses amis qui lui en faisaient des reproches « À quoi bon ?» Car il avait des amis, pas beaucoup, deux ou trois au plus, mais qu'il aimait de tout l'amour que lui refusaient les autres, qu'il aimait comme des gens qui ont une injustice à réparer. À quoi bon, oh, ceux qui sont dignes de moi ne me comprennent pas, et me comprennent ne s'arrêtent pas à cette écorce noueuse. Ils savent que la perle est cachée dans une coquille grossière. Les sots qui ne savent pas se rebuter s'éloignent. Où est le mal ? Pour un fou, ce n'était pas trop mal raisonné. Onufrius, comme je l'ai dit, était peintre. Il était de plus poète. Il n'y avait guère moyen que sa cervelle en réchappât, et ce qui n'avait pas peu contribué à l'entretenir dans cette exaltation fébrile, dont Jacinta n'avait pas toujours maîtresse, c'était ses lectures. Il ne lisait que des légendes merveilleuses et d'anciens romans de chevalerie, des poésies mystiques, des traités de cabale, des ballades allemandes, des livres de sorcellerie et de démonographie. Avec cela, il se faisait, au milieu du monde réel bourdonnant autour de lui, un monde d'extase et de vision, où il était donné à bien peu d'entrée. Du détail le plus commun, le plus positif, par l'habitude qu'il avait de chercher le côté surnaturel, il savait faire jaillir quelque chose de fantastique et d'inattendu. Vous l'auriez mis dans une chambre carrée, blanchie à la chaux sur toutes ses parois et vitrée de carreaux dépolis, il aurait été capable de voir quelque apparition étrange, tout aussi bien que dans un intérieur de Rembrandt inondé d'ombre et illuminé de fauves lueurs, tant les yeux de son âme et de son corps avaient la faculté de déranger les lignes les plus droites et de rendre compliquées les choses les plus simples, à peu près comme les miroirs courbes ou à facettes qui trahissent les objets qui leur sont présentés et les font paraître grotesques ou terribles. Ainsi Hoffmann et Jean-Paul le trouvèrent admirablement disposé. Ils achevèrent à eux deux ce que les légendaires avaient commencé. L'imagination de Onufrius s'échauffa et se débrava de plus en plus. Ses compositions peintes et écrites s'en ressentirent. La griffe ou la queue du diable y perçait toujours par quelque endroit, et sur la toile, à côté de sa tête suave et pure de Jacinta, grimaçait fatalement quelques figures monstrueuses, filles de son cerveau en délire. Il y avait 2 ans qu'il avait fait la connaissance de Jacinta, et c'était à une époque de sa vie où il était si malheureux que je ne souhaiterais pas d'autre supplice à mon plus fier ennemi. Il était dans cette situation atroce où se trouve tout homme qui a inventé quelque chose et qui ne rencontre personne pour y croire. Jacinta crut à ce qu'il disait sur sa parole, car l'œuvre était encore en lui. Et il l'aima comme Christophe Colomb dut aimer le premier venu qui ne lui rit pas au nez lorsqu'il parla du nouveau monde qu'il avait deviné. Jacinta l'aimait comme une mère aime son fils, et il se mêlait à son amour une pitié profonde, car, elle exceptée, qu'il aurait aimé comme il fallait qu'il le fût, qu'il eût consolé dans ses malheurs imaginaires, les seuls réels pour lui, qui ne vivait que d'imagination, qu'il eût rassuré, soutenu, exhorté, qui eût calmé cette exaltation maladive qui touchait à la folie par plus d'un point en la partageant plutôt qu'en la combattant, personne, à coup sûr. Et puis, lui dire de quelle manière il pourrait la voir, lui donner elle-même les rendez-vous, lui faire 1000 de ces avances que le monde condamne, l'embrasser de son propre mouvement, lui en fournir l'occasion, quand elle la lui voyait chercher, une coquette ne l'eût pas fait, mais elle savait combien tout cela coûtait au pauvre du Frius, et elle lui en épargnait la peine. Aussi peu accoutumé qu'il était à vivre de la vie réelle, il ne savait comment s'y prendre pour mettre son idée en action, et il se faisait des monstres de la moindre chose. Ses longues méditations, ses voyages dans les mondes métaphysiques ne lui avaient pas laissé le temps de s'occuper de celui-ci. Sa tête avait 30 ans, son corps avait 6 mois. Il avait si totalement négligé de dresser sa bête que si Jacinta et ses amis n'eussent pris soin de la diriger, elle eût commis d'étranges bévues. En un mot, il fallait vivre pour lui, il lui fallait un intendant pour son corps comme il en faut aux grands seigneurs pour leur terre. Puis, je n'ose l'avouer qu'en tremblant, dans ce siècle d'incrédulité, cela pourrait faire passer mon pauvre ami pour un imbécile. Il avait peur. De quoi ? Oh, je vous le donne à deviner en sang. Il avait peur du diable, des revenants, des esprits et de 1000 autres billevesées. Du reste, il se moquait d'un homme et de deux, comme vous, d'un fantôme. Le soir, il ne se fut pas regardé dans une glace pour un empire, de peur d'y voir autre chose que sa propre figure. Il n'eut pas fourré sa main sous son lit pour y prendre ses pantoufles ou quelque autre ustensile, parce qu'il craignait qu'une main froide et moite ne vînt au-devant de la sienne et ne l'attirât dans la ruelle. Ni jeter les yeux dans les encoignures sombres, tremblant d'y apercevoir de petites têtes de vieilles ratatinées emmanchées sur des manches à balai. Quand il était seul dans son grand atelier, il voyait tourner autour de lui une ronde fantastique, le conseiller Tussmann, le docteur Tavolaccio, le digne Peregrine Ustis, Crespel avec son violon et sa fille Antonia, l'inconnu de la maison déserte et toute la famille étrange du château de Bohême. C'était un sabbat complet, il ne se fut pas fait prier pour avoir peur de son chat comme d'un autre mur. Dès que Jacinta fut partie, il s'assit devant sa toile et se prit à réfléchir sur ce qu'il appelait les événements de la matinée. Le cadran de Saint-Paul, les moustaches, les pinceaux durcis, les vessies crevées, et surtout le point visuel. Tout cela se représenta à sa mémoire avec un air fantastique et surnaturel. Il se creusa la tête pour y trouver une explication plausible. Il bâtit là-dessus un volume inoctavo de suppositions les plus extravagantes, les plus invraisemblables qui soient jamais entrées dans un cerveau malade. Après avoir longtemps cherché, ce qu'il rencontra de mieux, c'est que la chose était tout à fait inexplicable, à moins que ce ne fût le diable en personne. Cette idée, dont il se moqua d'abord lui-même, prit racine dans son esprit, et lui semblant moins ridicule à mesure qu'il se familiarisait avec elle, il finit par en être convaincu. Qu'y avait-il, au fond, de déraisonnable dans cette supposition ? L'existence du diable est prouvée par les autorités les plus respectables, tout comme celle de Dieu. C'est même un article de foi. Et Onufrius, pour s'empêcher d'en douter, compulsa sur les registres de sa vaste mémoire tous les endroits des auteurs profanes ou sacrés dans lesquels on traite de cette matière importante. Le diable rôde autour de l'homme. Jésus lui-même n'a pas été à l'abri de ses embûches. La tentation de saint Antoine est populaire. Martin Luther fut aussi tourmenté par Satan, et pour s'en débarrasser, fut obligé de lui jeter son écritoire à la tête. On voit encore la tache d'encre sur le mur de la cellule. Il se rappela toutes les histoires d'obsession, depuis le possédé de la Bible jusqu'aux religieuses de Loudun. Tous les livres de sorcellerie qu'il avait lus, Bodin, Del Rio, Le Loyer, Bordelon, Le Monde Invisible de Becker, L'Infernalia, Les Farfadets de M. de Berbiguier de Terre-Neuve du Tain, Le Grand et le Petit Albert, et tout ce qui lui parut obscur, devint clair comme le jour. C'était le diable qui avait fait avancer l'aiguille, qui avait mis des moustaches à son portrait, changé le crin de ses brosses en fil d'arcale et rempli ses vessies de poudre fulminante. Le coup dans le coude s'expliquait tout naturellement. Mais quel intérêt Belzébuth pouvait-il avoir à le persécuter ? Était-ce pour avoir son âme ? Ce n'est pas la manière dont il s'y prend. Enfin, il se rappela qu'il avait fait, il n'y a pas bien longtemps, un tableau de saint Dunstan tenant le diable par le nez avec des pincettes rouges. Il ne douta pas que ce ne fût pour avoir été représenté par lui dans une position aussi humiliante que le diable lui faisait ses petites riches. Le jour tombait, de longues ombres bizarres se découpaient sur le plancher de l'atelier. Cette idée grandissant dans sa tête, le frisson commençait à lui courir le long du dos, et la peur l'aurait bientôt pris, si un de ses amis n'eût fait en entrant diversion à toutes ses visions cornues. Il sortit avec lui, et comme personne au monde n'était plus impressionnable, et que son ami était gai, un essaim de pensées folâtres eut bientôt chassé ses rêveries lugubres. Il oublia totalement ce qui était arrivé, ou, s'il s'en ressouvenait, il riait tout bas en lui-même. Le lendemain, il se remit à l'œuvre. Il travailla 3 ou 4 heures avec acharnement. Quoique Jacinta fût absente, ses traits étaient si profondément gravés dans son cœur qu'il n'avait pas besoin d'elle pour terminer son portrait. Il était presque fini, il n'y avait plus que 2 ou 3 dernières touches à poser et la signature à mettre quand une petite peluche qui dansait avec ses frères les atomes dans un beau rayon jaune parut une fantaisie inexplicable, quitta tout à coup sa lumineuse salle de bal, se dirigea en se dandinant vers la toile de Nufrius et vint s'abattre sur le rehaut qu'il venait de poser. Nufrius retourna son pinceau et avec le manche l'enleva le plus délicatement possible. Cependant, il ne put le faire si légèrement qu'il ne découvrit le champ de la toile en emportant un peu de couleur. Il refit une teinte pour réparer le dommage. La teinte était trop foncée et faisait tache. Il ne put rétablir l'harmonie qu'en remaniant tout le morceau, mais en le faisant, il perdit son contour et le nez devint aquilin, de presque la Roxelane qu'il était, ce qui changea tout à fait le caractère de la tête. Ce n'était plus Jacinta, mais bien une de ses amies avec qui elle s'était brouillée, parce que Dufrius la trouvait jolie. L'idée du diable revint à Onufrius à cette métamorphose étrange. Mais en regardant plus attentivement, il vit que ce n'était qu'un jeu de son imagination, et comme la journée s'avançait, il se leva et sortit pour rejoindre sa maîtresse chez Monsieur de... Le cheval allait comme le vent. Bientôt, Onufrius vit poindre au dos de la colline la maison de Monsieur de, blanche entre les marronniers. Comme la grande route faisait un détour, il la quitta pour un chemin de traverse, un chemin creux qu'il connaissait très bien, où tout enfant il venait cueillir des mûres et chasser aux hannetons. Il était à peu près au milieu, quand il se trouva derrière une charrette à foin que les détours du sentier l'avaient empêché d'apercevoir. Mais le chemin était si étroit, la charrette si large, qu'il était impossible de passer devant. Il remit son cheval au pas, espérant que la route, en s'élargissant, lui permettrait un peu plus loin de le faire. Son espérance fut trompée. C'était comme un mur qui reculait imperceptiblement. Oh, il voulut retourner sur ses pas. Une autre charrette de foin le suivait par derrière, et le faisait prisonnier. Il eut un instant la pensée d'escalader les bords du ravin, mais ils étaient à pic et couronnés d'une haie vive. Il fallut donc se résigner. Le temps coulait, les minutes lui semblaient des éternités. Sa fureur était au comble, ses artères palpitaient, son front était perlé de sueur. Une horloge à la voix fêlée, celle du village voisin, sonna à 6 heures. Aussitôt qu'elle eut fini, celle du château, dans un ton différent, sonna à son tour. Puis une autre encore, toutes les horloges de la banlieue, d'abord successivement, ensuite toutes à la fois. C'était un tutti de cloches, un concerto de timbres flûtés, ronflant, glapissant, criard, un carillon à vous fendre la tête. Les idées de Nufrius confondirent, le vertige le prit. Les clochers s'inclinaient sur le chemin creux pour le regarder passer. Il le montrait au doigt, lui faisait la nique et lui tendait par dérision leur cadran dont les aiguilles étaient perpendiculaires. Les cloches lui tiraient la langue et lui faisaient la grimace, sonnant toujours les 6 coups maudits. Cela dura longtemps. 6 heures sonnèrent ce jour-là jusqu'à 7. Enfin, la voiture déboucha dans la plaine. Onufrius enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval. Le jour tombait, on lui dit que sa monture comprenait combien il lui était important d'arriver. Ses pieds touchaient à peine la terre, et sans les aigrettes d'étincelles qui jaillissaient de loin en loin de quelques cailloux heurtés, on eût pu croire qu'elle volait. Bientôt, une blanche écume enveloppa comme une housse d'argent son poitrail d'ébène. Il était plus de 7 heures quand Onufrius arriva. Jacinta était partie. Monsieur Deul lui fit les plus grandes politesses, se mit à causer littérature avec lui et finit par lui proposer une partie de dames. Onufrius ne put faire autrement que d'accepter, quoique toute espèce de jeu, et en particulier celui-là, l'ennuya mortellement. On apporta le damier. Monsieur De prit les noires, Onuvrius les blanches. La partie commença. Les joueurs étaient à peu près de même force. Il se passa quelque temps avant que la balance se penchât d'un côté ou de l'autre. Tout à coup, elle tourna du côté du vieux gentilhomme. Ses pions avançaient avec une inconcevable rapidité, sans qu'Onufrius, malgré tous les efforts qu'il faisait, pût y apporter aucun obstacle. Préoccupé qu'il était d'idées diaboliques, cela ne lui parut pas naturel. Il redoubla donc d'attention et finit par découvrir, à côté du doigt dont il se servait pour remuer ses pions, un autre doigt maigre, noueux, terminé par une griffe, que d'abord il avait pris pour l'ombre du sien, qui poussait ses dames sur la ligne blanche, tandis que celle de son adversaire défilait processionnellement sur la ligne noire. Il devint pâle, ses cheveux se hérissèrent sur sa tête. Cependant, il remit ses pions en place et continua de jouer. Il se persuada que ce n'était que l'ombre et, pour s'en convaincre, il changea la bougie de place. L'ombre passa de l'autre côté et se projeta en sens inverse. Mais le doigt à griffe resta ferme à son poste, déplaçant les dames de Onufrius et employant tous les moyens pour le faire perdre. D'ailleurs, il n'y avait aucun doute à avoir, le doigt était orné d'un gros rubis. Onufrius n'avait pas de bague. « Mais pardieu, c'est trop fort !» s'écria-t-il en donnant un grand coup de poing dans le damier et en se levant brusquement. « Dieu scélérat, mes vieux gredins !» Monsieur de, qui le connaissait d'enfance et qui attribuait cette algarade au dépit d'avoir perdu, se mit à rire aux éclats et à lui offrir d'ironiques consolations. La colère et la terreur se disputaient l'âme de Onufrius. Il prit son chapeau et sortit.
La nuit était si noire qu'il fut obligé de mettre son cheval au pas. À peine une étoile passait-elle çà et là, le nez hors de sa mantille de nuages. Les arbres de la route avaient l'air de grands spectres tendant les bras. De temps en temps, un feu follet traversait le chemin, le vent ricanait dans les branches d'une façon singulière. L'heure avançait et Onufrius n'arrivait pas. Cependant, les fers de son cheval, sonnant sur le pavé, montraient qu'il ne s'était pas fourvoyé. Une rafale déchira le brouillard, la lune reparut. Mais au lieu d'être ronde, elle était ovale. Onufrius, en la considérant plus attentivement, vit qu'elle avait un serre-tête de taffetas noir et qu'elle s'était mis de la farine sur les joues. Ses traits se dessinèrent plus distinctement et il reconnut, à n'en pouvoir douter, la figure blême et allongée de son ami intime Jean-Gaspard de Bureau, le grand paillasse des funambules, qui le regardait avec une expression indéfinissable de malice et de bonhomie. Le ciel clignait aussi ses yeux bleus aux cils d'or, comme s'il eût été d'intelligence. Et comme à la clarté des étoiles on pouvait distinguer les objets, il entrevit quatre personnages de mauvaise mine, habillés mi-partie rouge et noir, qui portaient quelque chose de blanchâtre par les quatre coins, comme des gens qui chargeraient un tapis de place. Ils passèrent rapidement à côté de lui et jetèrent ce qu'il portait sous les pieds de son cheval. Onufrius, malgré sa frayeur, n'eut pas de peine à voir que c'était le chemin qu'il avait déjà parcouru et que le diable remettait devant lui pour lui faire pièce. Il piqua des deux, son cheval fit une ruade et refusa d'avancer autrement qu'au pas. Les quatre démons continuèrent leur manège. Onufrius vit que l'un d'eux avait au doigt un rubis, pareil à celui du doigt qu'il avait si fort effrayé sur le damier. L'identité du personnage n'était plus douteuse. La terreur d'Onufrius était si grande qu'il ne sentait plus, qu'il ne voyait ni n'entendait. Ses dents claquaient comme dans la fièvre, un rire convulsif tordait sa bouche. Une fois, il essaya de dire ses prières et de faire un signe de croix. Il ne put en venir à bout. La nuit s'écoula ainsi. Enfin, une raie bleuâtre se dessina sur le bord du ciel. Son cheval huma bruyamment par ses naseaux l'air balsamique du matin. Le coq de la ferme voisine fit entendre sa voix grêle et éraillée. Les fantômes disparurent, le cheval prit de lui-même le galop, et au point du jour, Onufrius se trouva devant la porte de son atelier. Harassé de fatigue, il se jeta sur un divan et ne tarda pas à s'endormir. Son sommeil était agité et le cauchemar lui avait mis le genou sur l'estomac. Il fit une multitude de rêves incohérents, monstrueux, qui ne contribuèrent pas peu à déranger sa raison déjà ébranlée. En voici un qu'il avait frappé et qu'il m'a raconté plusieurs fois depuis. J'étais dans une chambre qui n'était pas la mienne ni celle d'aucun de mes amis, une chambre où je n'étais jamais venu et que cependant je connaissais parfaitement bien. Les jalousies étaient fermées, les rideaux tirés. Sur la table de nuit, une pâle veilleuse jetait sa lueur agonisante. On ne marchait que sur la pointe du pied, le doigt sur la bouche. Des fioles, des tasses encombraient la cheminée. Moi, j'étais au lit comme si j'eusse été malade, et pourtant je m'étais jamais mieux porté. Les personnes qui traversaient l'appartement avaient un air triste et affairé qui semblait extraordinaire. Jacinta était à la tête de mon lit, qui tenait sa petite main sur mon front et se penchait vers moi pour écouter si je respirais bien. De temps en temps, une larme tombait de ses cils sur mes joues et elle l'essuyait légèrement avec un baiser. Ces larmes me fendaient le cœur et j'aurais bien voulu la consoler, mais il m'était impossible de faire le plus petit mouvement ou d'articuler une seule syllabe. Ma langue était clouée à mon palais, et mon corps était comme pétrifié. Un monsieur, vêtu de noir, entra, me tâta le pouls, hocha la tête d'un air découragé, et dit tout haut, « Oh, c'est fini !» Alors Jacinta se prit à sangloter, à se tordre les mains et à donner toutes les démonstrations de la plus violente douleur. Tous ceux qui étaient dans la chambre en firent autant. Ce fut un concert de pleurs et de soupirs à apitoyer un roc. J'éprouvais un secret plaisir d'être regretté ainsi. On me présenta une glace devant la bouche, je fis des efforts prodigieux pour la ternir de mon souffle afin de montrer que je n'étais pas mort. Je ne pus en venir à bout. Après cette épreuve, on me jeta le drap par-dessus la tête. J'étais au désespoir, je voyais bien qu'on me croyait trépassé et que l'on allait m'enterrer tout vivant. Tout le monde sortit. Il ne resta qu'un prêtre qui marmotta des prières et qui finit par s'endormir. Le croque-mort vint, qui me prit mesure d'une bière et d'un sein seul. J'essayai encore de me remuer et de parler, ce fut inutile. Un pouvoir invincible m'enchaînait. Force me fut de me résigner. Je restai ainsi beaucoup de temps, proie aux plus douloureuses réflexions. Le croque-mort revint avec mes derniers vêtements, les derniers de tout homme, la bière et le linceul. Il n'y avait plus qu'à m'en accoutrer. Il m'entortilla dans le drap et se mit à me coudre sans précaution comme quelqu'un qui a hâte d'en finir. La pointe de son aiguille m'entrait dans la peau et me faisait des milliers de piqûres. Oh, ma situation était insupportable. Quand ce fut fait, un de ses camarades me prit par les pieds, lui par la tête. Ils me déposèrent dans la boîte. Elle était un peu juste pour moi, de sorte qu'ils furent obligés de me donner de grands coups sur les genoux pour pouvoir enfoncer le couvercle. Ils en vinrent à bout à la fin et l'on planta le premier clou. Oh, cela faisait un bruit horrible. Le marteau rebondissait sur les planches et j'en sentais le contre-coup. Tant que l'opération dura, je ne perdis pas tout à fait l'espérance, mais au dernier clou, je me sentis défaillir, mon cœur se serra, car je compris qu'il n'y avait plus rien de commun entre le monde et moi. Ce dernier clou me rivait au néant pour toujours. Alors seulement, je compris toute l'horreur de ma position. On m'emporta. Le roulement sourd des roues m'apprit que j'étais dans le corbillard. Car bien que je ne puisse manifester mon existence d'aucune manière, je n'étais privé d'aucun de mes sens. La voiture s'arrêta, on retira le cercueil. J'étais à l'église. J'entendais parfaitement le chant nasillard des prêtres et je voyais briller à travers les fentes de la bière la lueur jaune des cierges. La messe finie, on partit pour le cimetière. Quand on me descendit dans la fosse, je ramassai toutes mes forces et je crois que je parvins à pousser un cri, mais le fracas de la terre qui roulait sur le cercueil le couvrit entièrement. Je me trouvais dans une obscurité palpable et compacte, plus noire que celle de la nuit. Du reste, je ne souffrais pas, corporellement du moins. Quant à mes souffrances morales, il faudrait un volume pour les analyser. L'idée que j'allais mourir de faim ou être mangé au ver, sans pouvoir l'empêcher, se présenta la première. Ensuite, je pensais aux événements de la veille, à Jacinta, à mon tableau qui aurait eu tant de succès au salon, à mon drame qui allait être joué, à une partie que j'avais projetée avec mes camarades, un habit que mon tailleur devait me rapporter ce jour-là, que sais-je, moi, mille choses dont je n'aurais guère dû m'inquiéter. Puis, revenant à Jacinta, je réfléchis sur la manière dont elle s'était conduite. Je repassais chacun de ses gestes, chacune de ses paroles dans ma mémoire. Je crus me rappeler qu'il y avait quelque chose d'outré et d'affecté dans ses larmes dont je n'aurais pas dû être la dupe. Cela me fit ressouvenir de plusieurs choses que j'avais totalement oubliées. Plusieurs détails auxquels je n'avais pas pris garde, considérés sous un nouveau jour, me parurent d'une haute importance. Des démonstrations que j'aurais jurées sincères me semblèrent louches. Il me revint dans l'esprit qu'un jeune homme, une espèce de femme, moitié cravate, moitié éperon, lui avait autrefois fait la cour. Un soir, nous jouions ensemble, Jacinta m'avait appelé du nom de ce jeune homme au lieu du mien, signe certain de préoccupation. D'ailleurs, je savais qu'elle en avait parlé favorablement dans le monde à plusieurs reprises, et comme de quelqu'un qui ne lui déplairait pas. Cette idée s'empara de moi, ma tête commença à fermenter. Je fis des rapprochements, des suppositions, des interprétations. Comme on doit bien le penser, elles ne furent pas favorables à Jacinta. Un sentiment inconnu se glissa dans mon cœur et m'apprit ce que c'était que souffrir. Je devins horriblement jaloux et je ne doutais pas que ce ne fût Jacinta qui, de concert avec son amant, ne m'eût fait enterrer tout vif pour se débarrasser de moi. Je pensais que peut-être, en ce moment même, ils riaient à gorge déployée du succès de leur stratagème, et que Jacinta livrait au baiser de l'autre cette bouche qui m'avait juré tant de fois d'avoir jamais été touchée par d'autres lèvres que les miennes. À cette idée, j'entrai dans une fureur telle que je repris la faculté de me mouvoir. Je fis un soubresaut si violent que je rompis d'un seul coup les coutures de mon linceul. Quand j'eus les jambes et les bras libres, je donnai de grands coups de coude et de genoux au couvercle de la bière pour le faire sauter et aller tuer mon infidèle au bras de son lâche et misérable galant. Sanglante dérision, moi enterré, je voulais donner la mort. Le poids énorme de la terre qui pesait sur les planches rendit mes efforts inutiles. Épuisé de fatigue, je retombai dans ma première torpeur. Mes articulations s'ossifièrent. De nouveau, je redevins cadavre. Mon agitation mentale se calma et je jugeais plus sainement les choses. Les souvenirs de tout ce que la jeune femme avait fait pour moi, son dévouement, ses soins qui ne s'étaient jamais démentis, eurent bientôt fait s'évanouir ses ridicules soupçons. Ayant usé tous mes sujets de méditation et ne sachant comment tuer le temps, je me mis à faire des vers. Dans ma triste situation, il ne pouvait pas être fort gai. Ceux du Nocturne Jung et du Sépulcral Hervé ne sont que des bouffonneries comparées à ceux-là. J'y dépeignais les sensations d'un homme conservant sous terre toutes les passions qu'il avait eues dessus, et j'intitulais cette rêverie cadavéreuse « La vie dans la mort ». Un beau titre, sur ma foi, et ce qui me désespérait, c'était de ne pouvoir les réciter à personne. J'avais à peine terminé la dernière strophe que j'entendis piocher avec ardeur au-dessus de ma tête. Un rayon d'espérance illumina ma nuit. Les coups de pioche se rapprochaient rapidement. La joie que je ressentis ne fut pas de longue durée. Les coups de pioche cessèrent. Non, on ne peut répondre avec des mots humains l'angoisse abominable que j'éprouvais en ce moment. La mort réelle n'est rien en comparaison. Enfin, j'entendis encore du bruit. Les fossoyeurs, après s'être reposés, avaient repris leur besogne. J'étais au ciel, je sentais ma délivrance s'approcher. Le dessus du cercueil sauta. Je sentis l'air froid de la nuit. Cela me fit grand bien, car je commençais à étouffer. Cependant, mon immobilité continuait. Quoique vivant, j'avais toutes les apparences d'un mort. Deux hommes me saisirent. Voyant les coutures du linceul rompues, ils échangèrent en ricanant quelques plaisanteries grossières, me chargèrent sur leurs épaules et m'emportèrent. Tout en marchant, ils chantonnaient à demi-voix des couplets obscènes. Cela me fit penser à la scène des fossoyeurs dans Hamlet, et je me dis en moi-même que Shakespeare était un bien grand homme. Après m'avoir fait passer par bien des ruelles détournées, ils entrèrent dans une maison que je reconnus pour être celle de mon médecin. C'était lui qui m'avait fait déterrer afin de savoir de quoi j'étais mort. On me déposa sur une table de marbre. Le docteur entra avec une trousse d'instruments. Il les étala complaisamment sur une commode. À la vue de ces scalpels, de ces bistouris, de ces lancettes, de ces scies d'acier luisantes et polies, j'éprouvai une frayeur horrible, car je compris qu'on allait me disséquer. Mon âme, qui jusque-là n'avait pas abandonné mon corps, n'hésita plus à me quitter. Au premier coup de scalpel, elle était tout à fait dégagée de ses entraves. Elle aimait mieux subir tous les désagréments d'une intelligence dépossédée de ses moyens de manifestation physique que de partager avec mon corps ses effroyables tortures. D'ailleurs, il n'y avait plus espérance de le conserver. Il allait être mis en pièces et n'aurait pu servir à grand-chose quand même ce déchiquetement ne l'eût pas tué tout de bon. ne voulant pas assister au dépècement de sa chère enveloppe, mon âme se hâta de sortir. Elle traversa rapidement une enfilade de chambres et se trouva sur l'escalier. Par habitude, je descendis les marches une à une, mais j'avais besoin de me retenir, car je me sentais une légèreté merveilleuse. J'avais beau me cramponner au sol, une force invincible m'attirait en haut. C'était comme si j'eusse été attaché à un ballon gonflé de gaz. La terre fuyait mes pieds, je n'y touchais que par l'extrémité des orteils. Je dis des orteils, car bien que je ne fusse qu'un pur esprit, j'avais conservé le sentiment des membres que je n'avais plus, à peu près comme un amputé qui souffre de son bras ou de sa jambe absente. Lassé de ses efforts pour rester dans une attitude normale, et du reste ayant fait réflexion que mon âme immatérielle ne devait pas se voiturer d'un lieu à l'autre par les mêmes procédés que ma misérable guenille de corps, je me laissais faire à cet ascendant, et je commençais à quitter terre sans pouvoir m'élever trop et me maintenant dans la région moyenne. Bientôt, je m'enhardis et je volais, tantôt haut, tantôt bas, comme si je n'eusse fait autre chose de ma vie. Il commençait à faire jour. Je montais, regardant aux vitres des mansardes des grisettes qui se levaient et faisaient leur toilette, me servant des cheminées comme de tubes acoustiques pour entendre ce qu'on disait dans les appartements. Je dois dire que je ne vis rien de bien beau et que je ne recueillis rien de piquant. M'accoutumant à ces moyens d'aller, je planais sans crainte dans l'air libre, au-dessus du brouillard, et je considérais de haut cette immense étendue de toit qu'on prendrait pour une mer figée au moment d'une tempête, ce chaos hérissé de tuyaux, de flèches, de dômes, de pignons, baigné de brume et de fumée, si beau, si pittoresque, que je ne regrettais pas d'avoir perdu mon corps. Le Louvre m'apparut blanc et noir, son fleuve à ses pieds, ses jardins verts à l'autre bout. La foule s'y portait. Il y avait exposition. J'entrais. Les murailles flamboyaient diaprées de peintures nouvelles, chamarrées de cadres d'or richement sculptés. Les bourgeois allaient, venaient, se coudoyaient, se marchaient sur les pieds, ouvraient les yeux hébétés, se consultaient les uns les autres, comme des gens dont on n'a pas encore fait la vie et qui ne savent ce qu'ils doivent penser et dire. Dans la grande salle, au milieu des tableaux de nos jeunes grands maîtres, de la Croix, Ingres, de Caen, j'aperçus mon tableau à moi. La foule se serrait autour, c'était un rugissement d'admiration. Ceux qui étaient derrière et ne voyaient rien criaient deux fois plus fort « Prodigieux, prodigieux !» Mon tableau me sembla à moi-même beaucoup plus mieux qu'auparavant. Et je me sentis saisi d'un profond respect pour ma propre personne. Cependant, à toutes ces formules admiratives, se mêlait un nom qui n'était pas le mien. Je vis qu'il y avait là-dessous quelques supercheries. J'examinai la toile avec attention. Un nom en petit caractère rouge était écrit à l'un de ses coins. C'était celui d'un de mes amis qui, me voyant mort, ne s'était pas fait scrupule de s'approprier mon œuvre. Oh, alors, que je regrettais mon pauvre corps. Je ne pouvais ni parler ni écrire. Je n'avais aucun moyen de réclamer ma gloire et de démasquer l'infâme plagiaire. Le cœur navré, je me retirai tristement pour ne pas assister à ce triomphe qui n'était dû. Je voulus voir Jacinta. J'allais chez elle, je ne la trouvais pas, je la cherchais vainement dans plusieurs maisons où je pensais qu'elle pourrait être. Ennuyé d'être seul, quoi qu'il fût déjà tard, l'envie me prit d'aller au spectacle. J'entrai à la porte Saint-Martin. Je fis réflexion que mon nouvel état avait cela d'agréable que je passais partout sans payer. La pièce finissait, c'était la catastrophe. Dorval, l'œil sanglant, noyé de larmes, les lèvres bleues, les tempes livides, échevelées, à moitié nues, se tordait sur l'avant-scène à deux pas de la rampe. Bocage, fatal et silencieux, se tenait debout dans le fond. Tous les mouchoirs étaient en jeu, les sanglots brisaient les corsets. Un tonnerre d'applaudissements entrecoupait chaque râle de la tragédienne. Le parterre, noir de tête, houlait comme une mer. Les loges se penchaient sur les galeries sur le balcon. La toile tomba. Je crus que la salle allait crouler. C'était des battements de mains, des trépillements, des hurlements. Oh, cette pièce était ma pièce. Jugé. Oh, j'étais grand à toucher le plafond. Le rideau se leva, on jeta cette foule le long de l'auteur. Ce n'était pas le mien, c'était le nom de l'ami qui m'avait déjà volé mon tableau. Les applaudissements redoublèrent. On voulait traîner l'auteur sur le théâtre. Le monstre était dans une loge obscure avec Jacinta. Quand on proclama son nom, elle se jeta à son cou et lui appuya sur la bouche le baiser le plus enragé que j'ai femme ait donné à un homme. Plusieurs personnes la virent. Oh, elle ne rougit même pas. Elle était si enivrée, si folle et si fière de son succès qu'elle se serait, je crois, prostituée à lui dans cette loge et devant tout le monde. Et plusieurs voix crièrent « Oh, le voilà, le voilà !» Le drôle prit un air modeste et salua profondément. Le lustre qui s'éteignit mit fin à cette scène. Oh, je n'essaierai pas de décrire ce qui se passait en moi. La jalousie, le mépris, l'indignation se heurtaient dans mon âme. C'était un outrage d'autant plus furieux que je n'avais aucun moyen de le mettre au dehors. La foule s'écoula, je sortis du théâtre, j'errai quelque temps dans la rue, ne sachant où aller. La promenade ne me réjouissait guère. Il sifflait une bise piquante. Ma pauvre âme, frileuse comme l'était mon corps, grelottait et mourait de froid. Je rencontrai une fenêtre ouverte, j'entrai, résolu de gîter dans cette chambre jusqu'au lendemain. La fenêtre se ferma sur moi, et j'aperçus, assis dans une grande bergère à ramages, un personnage des plus singuliers. C'était un grand homme, maigre, sec, poudré à frimas, la figure ridée comme une vieille pomme, une énorme paire de besicles à cheval sur un maître nez, baisant presque le menton. Une petite estafilade transversale, semblable à une ouverture de tirelire, enfouie sous une infinité de plis et de poils roides comme des soies de sanglier, représentait tant bien que mal ce que nous appellerons une bouche, faute d'autres termes. Un antique habit noir, limé jusqu'à la corde, blanc sur toutes les coutures, une veste d'étoffe changeante, une culotte courte, des bas chinés et des souliers à boucles, voilà pour le costume. À mon arrivée, ce digne personnage se leva et alla prendre dans une armoire deux brosses faites d'une manière spéciale. Je n'en pus deviner d'abord l'usage. Il en prit une dans chaque main et se mit à parcourir la chambre avec une agilité surprenante, comme s'il poursuivait quelqu'un, et, choquant ses brosses l'une contre l'autre du côté des barbes, ah, je compris alors que c'était le fameux M. Berbiguier de Terre-Neuve du Tain
qui faisait la chasse aux farfadets. J'étais fort inquiet de ce qui allait arriver. Il semblait que cet hétéroclite individu eût la faculté de voir l'invisible. Il me suivait exactement, et j'avais toutes les peines du monde à lui échapper. Enfin, il m'accula dans une encoignure. Il brandit ses deux fatales brosses, des millions de dards criblèrent l'âme. Chaque crin faisait un trou, une douleur était insoutenable. Oubliant que je n'avais ni langue ni poitrine, je fis de mon merveilleux effort pour crier. Onufrius en était là de son rêve lorsque j'entrais dans l'atelier. Il criait effectivement à pleine gorge. Je le secouai, il se frotta les yeux et me regarda d'un air hébété. Enfin, il me reconnut et me raconta, ne sachant trop s'il avait veillé ou dormi, la série de ces tribulations que l'on vient de lire. Ce n'étaient pas, hélas, les dernières qu'il devait éprouver réellement ou non.